VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 10 février 2017, forte réduction des troupes de la CEDEAO en Gambie à partir du 21 février. L'ONU s'y confirme son retrait définitif de Côte d'Ivoire à partir de la semaine prochaine. La justice française se déclare incompétente à propos de l'accident de train au Cameroun en octobre dernier. Un organisateur tué à la veille du festival Amani à Goma en RDC. Donald Trump qualifie de décision scandaleuse le jugement en appel qui a maintenu la suspension de son décret sur l'immigration. Et M. Trump a reçu à la Maison-Blanche ce vendredi le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Mais tout d'abord, le journal et après, l'économie et les sports. Les troupes de la CEDEAO déployées en Gambie le mois dernier pour soutenir le président Adama Barrow seront réduites de 4 000 à 500 soldats ce mois-ci. Jacques Aristide.
Cette diminution progressive des troupes doit démarrer au plus tard le 19 février. D'après un communiqué émis par le bureau du président, lu à la télévision d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait lancé le 19 janvier une opération militaire en Gambie, formée officiellement de soldats de 5 pays membres. Leur mandat initial consistait à contraindre au départ le président sortant Yahya Jammeh, qui refusait de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow après la présidentielle du 1er décembre dernier. Monsieur Jammeh a finalement quitté le pays le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale. Un précédent communiqué de la présidence gambienne, publié mercredi, annonçait un prolongement de 3 mois renouvelable de la mission de la CEDEAO pour renforcer la sécurité du pays. Le Sénégal, le Nigeria et le Ghana maintiendront l'effectif de quelques 500 hommes sur le sol gambien à partir du 21 février, d'après le général sénégalais François Ndiaye, commandant des troupes de la CEDEAO. Le désengagement graduel des forces terrestres se fera après le départ des composantes aériennes et navales, à compter donc du 19 février.
Au moins 8 soldats ont été tués et 2 blessés ce vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, selon une source militaire. L'attaque confirmée par un membre d'une milice d'autodéfense a eu lieu dans le village d'Agirine, à 50 km de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. La justice française s'est déclarée incompétente dans une affaire mettant en cause la filiale, le groupe Bolloré, à propos de l'accident de train en octobre au Cameroun ayant fait 79 morts. Anastasie Tudiatch.
Après la catastrophe, plusieurs organisations camerounaises s'étaient portées partie civile et avaient déposé plainte à Nanterre, notamment pour homicides et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les plaignants mettaient en cause la gouvernance du transport ferroviaire par l'État camerounais et s'interrogeaient sur les conditions de privatisation de la Société nationale des chemins de fer. Camrail est contrôlé à plus de 77% par le groupe français Bolloré, dont le siège est près de Nanterre. Porter plainte dans cette ville, c'était pour l'avocat des plaignants le moyen d'agir au plus près de celui qui contrôle le capital. Mais le parquet de Nanterre s'est dit incompétent car les victimes françaises ne vivaient pas à Nanterre. Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun.
Dans le nord du Ghana, 7 femmes et 3 enfants ont été tués et 11 personnes blessées au cours d'une violente dispute au sein d'une chefferie. Des coups de feu ont été entendus jeudi dans la ville de Bimbia à la suite d'informations selon lesquelles un roi local s'apprêtait à nommer un chef contre l'avis d'une autre faction. 21 suspects ont été arrêtés. La ville est sous couvre-feu et des patrouilles de police circulent dans la zone. Les travailleurs humanitaires ont estimé à 2,3 milliards de dollars les besoins des populations vulnérables de la RDC entre 2017 et 2019, selon le plan de réponse humanitaire onusien publié ce vendredi à Kinshasa. La plupart des besoins sont concentrés dans les zones de conflit dans l'est du pays, mais des poches de vulnérabilité existent ailleurs dans ce pays, précise l'ONU, citant notamment les violences intercommunautaires et l'absence de développement parmi des facteurs à la base de la vulnérabilité chronique qui touche la majeure partie des 70 millions de Congolais. un organisateur du festival Amani pour la promotion de la paix dans l'est de la RDC, a été tué la nuit dernière, à la veille de la 4e édition. Nous avons le regret et l'immense peine de vous annoncer le décès de notre cher ami Norbert Paluku Diju, membre actif du foyer culturel de Goma et du festival Amani. Peut-on lire sur la page Facebook du festival qui se tient annuellement donc à Goma dans le nord du Kivu, dans le nord Kivu, pardon. Un policier a tué par balle cette nuit l'un des organisateurs du festival Amani lors d'une altercation, a confirmé à l'AFP une source policière sous couvert d'anonymat. Le tueur est actuellement en état d'arrestation, a-t-elle ajouté. De nouvelles milices armées ont vu le jour dans les provinces méridionales d'Équatoria au Soudan du Sud depuis la flambée de violence de juillet 2016 dans la capitale Djouba, a déploré aujourd'hui le médiateur régional Festus Mogae.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a accueilli ce vendredi à la Maison-Blanche le Premier ministre japonais Shinzo Abe avant de s'envoler avec lui pour un week-end de golf en Floride. Le président américain a estimé que les échanges économiques entre les États-Unis et le Japon devaient être libres et réciproques. Deux mois après un coup de fil retentissant avec Taïwan, Donald Trump a assuré à son homologue chinois Xi Jinping qu'il respecterait le principe d'une seule Chine. Salwa Jafari.
À Pékin, l'heure était à l'optimisme aujourd'hui.
Ensemble avec les États-Unis, nous voulons faire des efforts conjoints pour élargir notre coopération dans l'esprit de ce dialogue récent et pour renforcer nos relations bilatérales afin d'obtenir plus et des meilleurs résultats.
Lors d'un entretien téléphonique, Donald Trump et Xi Jinping ont discuté de nombreux sujets et le président américain a accepté de respecter le principe d'une seule Chine. Dans un entretien au quotidien Wall Street Journal en janvier, Donald Trump avait indiqué être prêt à remettre en cause le principe, estimant que tout était sur la table, y compris la Chine unique. La Chine interdit à tout pays avec lequel elle a des relations diplomatiques d'en avoir simultanément avec Taïwan. Washington a ainsi coupé ses liens en 1979 avec Taïwan et reconnu le régime communiste de Chine continentale comme l'unique autorité légitime chinoise.
L'ONU a lancé un appel à une aide d'urgence pour éviter une catastrophe au Yémen, où les deux tiers de la population peinent à se nourrir à cause du conflit. John Linden nous en dit plus.
Selon une évaluation réalisée par l'OPAM, la FAO et l'UNICEF, plus de 17 sur les 27 millions de Yéménites ont des difficultés à se nourrir. 7 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 3 millions de plus qu'à l'été 2016. Le taux de malnutrition a atteint le seuil critique de plus de 15% de la population dans 4 régions. La vitesse à laquelle la situation se détériore est extrêmement préoccupante, a déclaré Salah El-Hajj Hassan, représentant de la FAO au Yémen. Steven Anderson, directeur du PAM, a prévenu que 7 millions de personnes risquaient de ne pas pouvoir survivre si la situation devait perdurer. Chez les enfants, l'UNICEF parle de taux de malnutrition jamais atteint. Le Yémen est déchiré depuis 2015 par un conflit qui a fait plus de 7400 morts et plus de 40 000 blessés. Mercredi, l'ONU a réclamé un peu plus de 2 milliards de dollars pour aider rien que cette année 12 millions de personnes affectées par ce conflit, donc 2 millions d'enfants qui souffrent de graves malnutrition.
Et signalons à ce propos que les forces gouvernementales au Yémen ont repris aujourd'hui le contrôle total de la ville portuaire de Mocha. Les deux fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur de la tourmente des Panama Papers l'an dernier, ont été placés en détention provisoire au Panama dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, le groupe brésilien de BTP. Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora ont été arrêtés jeudi dans la capitale panaméenne et ont été présentés au parquet. Le ministère public qui les accuse de blanchiment de capitaux a perquisitionné leur cabinet. Près de 2 tonnes de cocaïne provenant de la Colombie et destinées aux États-Unis ont été saisies lors d'une opération menée en collaboration avec 3 autres pays d'Amérique latine. Et l'agence antidrogue américaine a annoncé la police colombienne. Au total, 1757 kilos de chlorhydrate de cocaïne ont été saisis au Guatemala, en Équateur, en Colombie et au Salvador, a précisé la police. L'adolescente de 16 ans interpellée vendredi dans le sud de la France avec 3 autres personnes soupçonnées de préparer un attentat avait prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo. Selon des sources proches de l'enquête, la jeune fille avait diffusé cette vidéo le 8 février sur les réseaux sociaux, rapporte l'AFP. Et on revient sur l'Afrique où les soldats des forces spéciales ivoiriennes qui s'étaient mutinés mardi dans leur base d'Adiaké pour réclamer des primes ont mis fin à leur mouvement. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Présent la Minute Éco.
La conférence Mining Indaba sur le secteur minier s'est achevée hier au Cap, en Afrique du Sud. L'occasion pour Jeune Afrique de faire le point sur l'attractivité des pays du continent. Parmi les pays en vogue, on retrouve donc la Côte d'Ivoire et la Guinée. En revanche, la République démocratique du Congo est en baisse, notamment en raison de la crise politique qui inquiète les investisseurs. L'Angola et le Tchad cherchent à développer leurs relations économiques. L'idée est de trouver des hommes d'affaires pour des investissements réciproques, d'après le gouvernement angolais, où s'est rendu le ministre tchadien des infrastructures et du désenclavement. Sont notamment visés les transports et l'agriculture. Cdiscount met fin à son aventure africaine. Le leader français du commerce électronique a fermé sa dernière filiale active sur le continent, celle de Côte d'Ivoire. Sont notamment en cause la mauvaise gestion des livraisons et le manque de partenaires sur place, indique Jeune Afrique.
Et à présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Alors, record du monde du semi-marathon pour une Kenyane.
Pérès Jepchirchir a amélioré le record du monde du semi-marathon en 1h, 5 minutes et 6 secondes. 3 secondes de mieux que la précédente marque de sa compatriote Florence Kiplagat. La course a eu lieu aux Émirats Arabes Unis et la performance de Jepchirchir est d'autant plus remarquable que la jeune femme âgée de 23 ans avait souffert l'année dernière d'une pneumonie.
Et Caster Semenya récupère une médaille d'or.
Maria Savinova-Farnosova a été suspendue car des preuves évidentes de dopage existent. L'athlète russe s'est vue retirer sa médaille d'or sur 800 mètres obtenue lors des Jeux Olympiques de Londres. Elle a été suspendue pour 4 ans pour dopage. C'est ce qu'annonce le tribunal arbitral du sport. C'est donc la Sud-Africaine Caster Semenya qui récupère le titre de championne olympique du 800 mètres au JO 2012.
Le Cameroun et l'Égypte bondissent au classement FIFA, n'est-ce pas ?
Oui, les nations africaines qui se sont illustrées lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, notamment les deux finalistes, le Cameroun et l'Égypte, eh bien, ces deux pays bondissent au classement FIFA. L'Égypte, finaliste malheureux, est devenue la nation africaine la mieux classée, 23e, alors que le Cameroun, vainqueur du tournoi, a bondi de 29 rangs et se classe désormais 33e, deux longueurs derrière le Sénégal, 31e. La Côte d'Ivoire, en revanche, qui s'est faite sortir dès le premier tour, malgré son statut de tenante du titre, a dégringolé de 13 rangs. Elle est désormais 47e. L'Algérie, également sortie de le premier tour, chute de 11 places et occupe la 50e place.
Et pour terminer, Nicolas, un mot de NBA, championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook a fait un pas de plus vers le titre de meilleur joueur de la saison en terrassant LeBron James et Cleveland, 118 à 109, avec en prime son 26e triple-double de la saison. Le meneur d'Oklahoma City a fini la rencontre avec 29 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Boston a renoué avec la victoire en battant Portland dans sa salle, 120-111. Quant à l'équipe de Dallas, elle a fait chuter Utah, 112 à 105.
Merci beaucoup pour cette page sportive, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez donc Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter les dossiers du jour. L'ONUCI confirme son retrait définitif de Côte d'Ivoire à partir de la semaine prochaine. Malgré les récents remous dans l'armée avec différents corps qui réclament des primes, la chef de la mission, Madame Aïchatou Mindandou, se dit confiante, appelant toutefois les soldats ivoiriens à faire de la discipline leur priorité. Dans cette interview avec Abdourahmane Dia, elle revient d'abord sur le plan de transfert des activités avec Abidjan, chiffré à 50 millions de dollars.
Dans ce plan de transfert des activités, nous avons identifié 6 domaines qui nécessitent une attention particulière. Il s'agit de la cohésion sociale, il s'agit de la réconciliation nationale, de la réforme du secteur de sécurité, il s'agit des droits de l'homme, il s'agit aussi de tout ce qui concerne les aspects de consolidation de la réintégration des ex-combattants. Il s'agit également de tout ce qui est relatif aux militaires et aux policiers.
L'ONUCI, disons les casques bleus, quitte la Côte d'Ivoire dans un contexte où on a vu des remous avec différents corps d'armée. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu?
L'ONUCI a consacré beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de ressources et d'énergie à rebâtir la confiance entre les populations et leur armée. C'est un travail qui a porté ses fruits et vous conviendrez avec moi que l'attitude des soldats que nous avons enregistrée depuis le début du mois de janvier n'est pas du tout de nature à aller dans le sens de la consolidation de cette confiance entre eux et les populations dont ils ont l'objectif premier de protéger. Et troisièmement, la Côte d'Ivoire a quand même ambitionné, et le Conseil de sécurité l'a décidé, que la Côte d'Ivoire puisse participer pour jeter des troupes au sein des missions de maintien de la paix. Cette attitude des soldats est une attitude qui démontre une discipline notoire et un manque de conformité à la déontologie militaire, et cela doit changer. Vous avez suivi avec moi sur les médias, jamais, à aucun moment, ils n'ont remis en cause les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire.
Maintenant, pour ce qui est de la réconciliation nationale, le chemin est encore loin.
Premièrement, monsieur, la réconciliation nationale, c'est une œuvre de longue haleine. Et dans tous les pays du monde qui se sont engagés dans cette voie suite à un conflit ou à une crise, ça a pris du temps. L'essentiel a consisté pour les Nations Unies d'accompagner les Ivoiriens pour que la réconciliation nationale s'enclenche. Et elle s'est enclenchée.
C'était Aïchatou Mindaoudou, représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Retour sur le phénomène des taxis à gaz au Burkina Faso, cette fois-ci avec une personne opposée à cette pratique peu coûteuse. Pour comprendre les arguments de ses détracteurs, Dili Diko a joint à Ouagadougou Adama Emmanuel Nakoulma, président de la Fédération nationale des syndicats des taximans et des acteurs du transport urbain.
Nous sommes contre les taxis à gaz. Tout simplement, le gaz n'est pas fait pour les taxis. Le gaz est fait pour les ménages de nos femmes, nos mamans et autres préoccupations. Maintenant, si aujourd'hui, les taximans utilisent ça comme une source d'énergie dans les véhicules, ce n'est pas normal. Et encore, c'est parce que l'État l'a subventionné. Si l'État n'avait pas subventionné le gaz, les taximans ne pouvaient pas utiliser le gaz comme source d'énergie. Donc nous, on a lancé un appel à tous nos camarades taximans qui supplient avec le gaz dans les taxis d'arrêter sa fête. Vraiment interdit. Et encore, je dis, l'installation du gaz, même dans les taxis, est anarchique. Et anarchique parce que c'est pas le véhicule ne peut pas sortir avec le gaz. Si c'est le véhicule qui sort en hybride avec le gaz, on peut les accepter. Parce que le véhicule en hybride, c'est fabriqué comme ça en gaz. Mais il n'y a pas ça actuellement au Burkina. Il n'y a même pas de réglementation sur ça. Et le gaz que les gens utilisent pour mettre dans les taxis, c'est pas le gaz même qui est conseillé, même pour qu'on puisse utiliser dans les véhicules. C'est le gaz de ménage. Donc, c'est pas fait pour les taxis.
Vous avez parlé de la façon anarchique dont l'installation est faite pour les taxis à gaz. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ils transforment une voiture à essence en taxi à gaz ?
Pour mettre un véhicule à essence à gaz, il suffit seulement de chercher une bouteille de 12 kg, ou soit une bouteille de 8 kg. Prendre un rapport au moins de 1,50 m, on met dans le coffre, on amène le rapport sur le capot, on l'alimente avec le carburateur, on cherche un appareil de clapet qui bloque l'arrivée du gaz, les va-et-vient du gaz, on l'installe et on envoie le rapport sur le carburateur et l'autre, là, c'est le retour maintenant qui repart sur la bouteille. Dès qu'on installe sur le carburateur, on allume sur le pape, ça démarre, c'est pas. Ceux qui l'empruntent là-bas déjà, c'est très dangereux. Et encore, vous ne pouvez pas l'installer comme ça et puis vous ne pouvez pas ne pas avoir l'état de fuite. Les fuites là, c'est un problème. Nous, on n'est pas d'accord. Très dangereux.
Les coûts sont différents, donc est-ce que vous craignez la compétition des taxis à gaz ?
Alors vous voyez pourquoi les gens utilisent le gaz ? C'est parce que si on met le gaz dans le taxi, la consommation est vraiment moins chère. Quand vous prenez une bouteille de 12 kilos, vous pouvez faire au moins 200 et quelques kilomètres. Alors qu'en essence, si vous mettez au moins 5 000 d'essence, vous ne pouvez même pas faire 45 kilomètres aller-retour. Il y a encore un véhicule qui fume, il y a une autre pollution. Si vous utilisez le gaz, ce véhicule ne fume plus.
Quelles sont vos demandes aux autorités burkinabées ?
On a demandé à l'État de voir s'il peut vraiment renouveler le parc de taxis. Parce que notre parc est carrément vécu. Donc nous avons demandé à l'État, l'État n'a qu'à voir s'il peut vraiment nous aider. Mais ils ont pris l'engagement qu'ils vont vraiment nous accompagner. Mais comme ils ont dit qu'ils vont nous accompagner, je pense qu'il ne doit pas avoir un problème de ce côté.
C'était Adama Emmanuel Nakoulma, président de la Fédération nationale des syndicats des taximans burkinabés.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement de Kigali a adopté hier le Swahili comme quatrième langue officielle du Rwanda. Blanche Sanou a joint le directeur de la radio-télévision Contact FM, Albert Roudatsimbourwa.
Il y a un souci de suivre un agenda d'intégration régionale. Et dans la partie de l'Afrique de l'Est dans laquelle le Rwanda se retrouve, le Swahili est quand même une langue majeure et qui réunit beaucoup de pays. C'était tout à fait normal que le Rwanda aussi, pour finir, adopte le Swahili comme une langue officielle.
Alors concrètement, comment est-ce que cette adoption va se traduire ?
Son exploitation, je dirais que ça va, j'imagine, être en phase dépendant des priorités du pays et une gestion des ressources. Petit à petit, on va commencer à l'intégrer aussi dans le reste de l'administration et surtout dans l'éducation. Mais j'imagine que tout cela, c'est une question de gestion des ressources parce que c'est quand même lourd d'avoir quatre langues officielles.
Quel sera l'impact de cette décision sur l'aspect économique ?
Au départ, c'est quand même plus symbolique parce que, je dirais, il y a déjà des gens qui traitent d'économie en général, des acteurs économiques, parlent déjà Swahili. Le premier impact, effectivement, c'est le fait que nous avons un passeport, le passeport commun d'Afrique de l'Est va faire en sorte que maintenant, de toute façon, je veux dire, il y a aussi en Swahili. Et il y a des gens d'ailleurs qui ne parlent pas d'autres langues que des langues africaines. Il y a aussi cela. Donc, effectivement, je crois qu'ils vont trouver ça une excellente idée.
Alors, est-ce que le pays dispose, par exemple, des ressources nécessaires pour l'adoption au niveau de l'aspect éducatif ?
Le Rwanda, en fait, se reconstruit depuis 1994 et que le Rwanda a beaucoup investi dans l'éducation, puisque ça fait partie de sa vision 2020 que ce pays se transforme aussi dans une société du savoir. On a aussi construit des infrastructures qui vont avec pour pouvoir permettre que cette jeunesse puisse aller à l'école.
On écoutait Albert Roudatsimbourwa, directeur de Contact FM à Kigali, au Rwanda.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président américain Donald Trump a qualifié ce matin de décision scandaleuse le jugement de la Cour d'appel de San Francisco qui a maintenu la suspension de son décret limitant l'immigration. Monsieur Trump a répété ces derniers jours que la législation ne laissait aucun doute sur son pouvoir discrétionnaire en matière d'immigration. Quelles sont ses options maintenant? Pour un élément de réponse sur cette question, Claire Morin-Gibourg a joint la juriste et avocate spécialisée sur le droit et les politiques d'immigration, Smita Dazzo.
Premièrement, il peut aller au Cour suprême, ce qu'il a mentionné sur Twitter, que peut-être qu'il va faire ça. Mais ce n'est pas idéal, parce que ce qui s'est passé récemment, c'est seulement une ordonnance d'interdiction temporaire. Okay? Donc, c'est plus ou moins 14 jours. Donc, après, le juge dans l'État de Washington, il peut faire une injonction préliminaire qui a beaucoup plus de temps que 14 jours. Donc, président Trump, il peut retourner à l'État de Washington pour continuer avec le même juge pour essayer de se battre sur l'injonction préliminaire. Ou il peut demander au Cour d'appel de Ninth Circuit d'avoir une audience en banque. Ça veut dire avec plus de juges. Parce que cette fois, il n'y avait que 3 juges. Donc il peut demander d'avoir une audience de 11 juges. Mais le Ninth Circuit est un cour vraiment libéral. Donc je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée.
Est-ce qu'il serait possible qu'il signe un nouvel executive order?
Bien sûr, c'est un de ses droits comme président. Donc, à n'importe quel moment, il peut faire des ordres exécutifs, oui.
Et là, ça voudrait dire qu'on peut repartir à zéro. Une cour peut bloquer ce décret?
Ça dépend, parce que s'il continue dans le même sens, il doit essayer au moins d'écrire un ordre exécutif qui est constitutionnel. Sinon, il y aura quand même les mêmes problèmes. Parce que n'importe quelle cour, n'importe quel tribunal aux États-Unis peut dire que l'ordre exécutif n'est pas constitutionnel ou n'est pas légal.
Donc, grosso modo, pendant les 4 années qui arrivent, est-ce qu'on peut aller d'executive order à des blocages par différents tribunaux?
Oui, je pense. Parce que dans les 21 jours, ou peut-être un peu plus que ça, qu'il est président, je sais qu'il y a au moins 7 ou 8 ordres exécutifs qu'il avait déjà faits qui sont maintenant au tribunal différent aux États-Unis. Beaucoup de gens ont donné beaucoup d'argent au ACLU. Ils vont lutter comme ils peuvent.
C'était la juriste Smita Rao Dazzo, experte en immigration. Elle était jointe à Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, Souleymane Tarawale. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée et très bon week-end à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.